Alors, t'as prévu quoi au niveau du menu ce soir?
Je pensais faire des filets de dorade marinés au citron. Tu sais, avec une petite julienne de légumes romarin.
Ça va être excellent tout ça. Bon, je vais allumer le Weber et sortir la plancha.
Chérie, je vais pas faire ça au barbecue, c'est la tempête dehors et tombe des cordes.
Oui, et alors?
Avec les accessoires pour poissons, pizza et viande des Creative Pack, cuisiner sur votre barbecue Weber devient si facile et créatif que vous ne pourrez plus vous en passer. Weber, la gastronomie d'extérieur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand voulait commencer cette émission par un merci. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Mais oui, merci à tous ceux, vous étiez plus de 2 millions, qui ont eu la patience d'attendre que commence l'ombre d'un doute hier soir, malgré ce démarrage chaotique dû à l'actualité sportive. Merci Roland Garros.
Ah, tout à fait, âge. Encore compliqué.
Nous avons commencé avec une demi-heure de retard et beaucoup d'entre vous étaient là néanmoins, alors merci de votre fidélité.
Francis Perrin est aujourd'hui à votre invité sur Europe 1.
Et oui, quel bonheur. Comédien, amuseur, chef de troupe, metteur en scène, Francis Perrin, pourrait-on dire, et je sais que ça va lui faire plaisir, est un enfant de Molière. À ceci près que lui, Francis, est un auteur. Et ça, c'est un clin d'œil à notre éternelle dispute au sens noble sur le grand homme du théâtre français. Aujourd'hui, il publie un ouvrage historique tout à fait passionnant sur un personnage oublié de la Révolution. Vous allez voir que le personnage en question méritait 1000 fois d'être sorti des limbes où l'avait plongé l'oubli public.
Alors ce personnage s'appelle Charles-Hippolyte Delpeuge de Labussière.
Oui, il se faisait appeler tout simplement Labussière, comédien lui aussi, et qui, aux pires heures de la Révolution, se trouve employé aux deux comités, vous savez, le comité de salut public et le comité de sûreté générale, et il va accomplir là un incroyable travail de l'ombre, faisant au péril de sa vie disparaître des dossiers d'instruction afin de sauver de la guillotine toutes sortes de personnalités. En tout, si l'on en croit la chronique de l'époque, 1153 personnes. Avouez que l'affaire n'est pas banale. J'ai demandé à Philippe Séguy de nous rejoindre, il est un habitué de l'émission, et vous savez que pour lui, la Révolution n'a jamais aucun secret.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
À la Comédie Française, il y a une plaque qui a été scellée au mur du foyer des comédiens. On peut y lire « À la mémoire de Charles-Hippolyte Labussière, comédien employé au comité de salut public qui, en 1794, a sauvé de la mort d'Azincourt, Fleury, Françoise Raucourt, Émilie et Louis Comtat, Élisabeth Lange, comédien français. » Alors qui était ce Labussière? Eh bien, c'était un jeune aristocrate en rupture de ban, ancien militaire devenu comédien de fortune, nous dit Léon Sandowski, qui s'était trouvé bénéficier de l'emploi de commis dans les bureaux de l'exécutif révolutionnaire installé au ci-devant palais des Tuileries, vous savez, qui était devenu le palais de l'égalité. Il œuvrait donc dans l'ombre pour les comités avec la charge de recevoir les dossiers d'instruction en provenance des différentes prisons de la Révolution, de les trier et de les transmettre tout simplement au tribunal révolutionnaire. Autant dire qu'il occupait un de ces postes clés qui parfois peuvent donner un grand pouvoir à de petites gens. Charles-Hippolyte se trouvait au cœur du dispositif de mort du régime de la terreur. Il travaillait, selon sa propre expression, dans la tanière de l'hydre. Il devait déclarer à un de ses amis « Je suis ni plus ni moins le complice des assassins ». Et forcément, ça le torturait moralement. Voici comment la chronique a rapporté son éclair de génie. À l'heure du départ des employés, Labussière, prétextant un travail inachevé dont l'urgence était incontestable, avait fait exprès de s'attarder, la plume à la main, penché sur ses feuillets. En réalité, c'était pour se concentrer, pour tâcher d'ourdir quelques stratagèmes. Lorsque son regard se posa sur le seau plein d'eau servant à rafraîchir la chopine de vin du garçon de bureau, il eut une idée lumineuse. Il se saisit d'un dossier, en mania les pages, constata que, quoique formé d'un papier fort et résistant, peut-être n'était-il pas impossible, en les détrempant dans l'eau du seau, de les réduire en bouillie. Sans désemparer, Labussière malaxa cette pâte, enroula des boulettes qu'il fourra dans ses différentes poches. Après s'être assuré qu'il ne laissait aucune trace de son étrange opération, il sortit en sifflotant. Le portier le salua de son habituel « salut et fraternité ». ce système du seau d'eau manquant toutefois d'efficacité, notre ami va se mettre à extraire des dossiers qu'il dissimule sous ses vêtements, puis se rend au bain Vigier, vous savez, qui se trouve pas très loin de là. Il malaxe les dossiers dans l'eau chaude d'une baignoire, il en fait des boulettes de papier qu'il jette ensuite à la Seine. Voici ce qu'il dira ou laissera dire dans les mémoires assez contestées du reste qui paraîtront sous son nom en 1803. Je le cite. « Je m'attachais d'abord à sauver les pères et les mères de familles de toutes conditions. » Quand j'avais rassemblé les pièces de mes privilégiés, je les enfermais à part, soigneusement à l'abri de toute curiosité. Les prisons étant alors bondées, les arrestations multipliées, j'avais fort à faire, et de plus en plus, mais je m'étais arrangé pour qu'on me crût le plus dévoué parmi les modestes serviteurs de la République. Un matin, je tombais sur les dossiers des acteurs de la Comédie-Française, mêlés à d'autres fort nombreux qui concernaient les pensionnaires d'autres théâtres. Parmi ceux de la Comédie-Française se trouvaient Dazincourt, Fleury, Mademoiselle Raucourt, Émilie et Louise Conta, Élisabeth Lange. Tremblant d'émotion, car j'admirais tous ces artistes célèbres, je décidai en moi-même de les sauver coûte que coûte, fût-ce au prix de ma propre vie. Le poète Florian, lui aussi, était promis à l'échafaud. Je puis attester que je redoublais de zèle. Et tout eût été pour le mieux dans le pire des mondes, sans la lettre fatale dont copie fut déposée dans tous les bureaux, lettre de l'accusateur public au citoyen représentant du peuple chargé de la police générale. Alors voilà, c'est la lettre en question. Elle est signée Fouquier-Tinville, donc l'accusateur du tribunal révolutionnaire, et elle dit... Depuis environ 10 mois, il y a un désordre total dans les pièces du comité sur nombre d'individus qui me sont désignés pour être jugés. Il en manque presque toujours la moitié ou les deux tiers, et quelquefois davantage. Dernièrement encore, tout Paris s'attendait à la mise en jugement des comédiens français, et je n'ai encore rien reçu de relatif à cette affaire. Il m'est impossible de mettre en jugement aucun détenu sans les pièces qui m'indiquent au moins le nom de la prison, etc., etc. Vous imaginez, doté d'une telle matière, et de nombre d'éléments que je n'ai pas encore évoqués, on a une heure pour le faire. Vous imaginez quel captivant roman Francis Perrin a pu écrire. Du reste, ce que je viens d'évoquer n'occupe que le dernier quart de son ouvrage. Son ouvrage s'appelle « L'enfant terrible de la Révolution ». Parce qu'évidemment, avant le palais de l'égalité, il y a eu bien des épisodes dans la vie mouvementée de la Bussière.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1. Ah, nous allons peut-être faire le speak sur les experts européens si vous le souhaitez. Alors on y va, c'est parti. Comment lire entre les lignes du code du travail ou d'un contrat professionnel? Les réponses dès 14h avec les experts européens. Vous avez un litige à régler, vous pouvez d'ores et déjà les contacter sur europe1.fr au 3921, 34 centimes d'euros la minute, ou sur la page Facebook d'Europe 1 Midi. Allez, maintenant, on part pour au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et avec nous donc aujourd'hui Francis Perrin, comédien, réalisateur, metteur en scène, écrivain de romans historiques dont L'enfant terrible de la Révolution chez Plon, et puis Philippe Séguy qui est docteur en histoire, journaliste et grand reporter à Point de vue.
Bonjour à tous les deux, je suis ravi que vous ayez pu libérer un peu de temps dans votre emploi du temps extraordinaire, Francis Perrin, pour venir nous parler de ce personnage incroyable. Votre roman est tout simplement passionnant, ça commence d'une façon étonnante puisque on assiste avec un certain nombre de grands personnages dont Fouché à une représentation, on arrive à Charenton, qui est la maison de l'asile des fous de l'époque. Quel est le célèbre pensionnaire de Charenton? C'est évidemment le marquis de Sade. Voilà. Le marquis de Sade a pris l'habitude de donner des représentations théâtrales auxquelles assiste une partie de ce qu'on pourrait appeler le tout Paris de l'époque. On est donc au tout début de l'Empire, hein, en 1807.
Oui, 1805.
5 même, oui. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce soir-là, alors il y a une grille entre la salle et la scène, parce que ce sont quand même des gens qui sont détenus en quelque sorte.
Absolument.
Ce sont
des aliénés.
Et le marquis de Sade s'approche et il dit, eh bien, contrairement à d'habitude, nous n'avons pas à vous donner une représentation de théâtre, je vais laisser la parole à l'un des pensionnaires qui a une histoire tellement extraordinaire à vous raconter. Et cette histoire, c'est l'histoire de sa vie. Voilà. Et la vie, c'est la vie de Labussière. Comment est-ce que vous connaissiez ce personnage de Labussière?
J'avais, quand j'étais à la Comédie Française, donc il y a très longtemps, j'avais vu la fameuse plaque et je m'étais renseigné. Puis j'avais lu la pièce de Victorien Sardou, Thermidor, et donc qui parlait de Labussière. Donc ça m'avait passionné. J'ai dit, tiens, c'est fou ce comédien qui a fait ça. Et puis voilà.
Victorien Sardou.
Les années ont passé et tout. Et puis, cet artifice de, comme vous avez dit, de Charenton, où il était vraiment en même temps que le Marquis de Sade, je me suis dit, c'est le moyen de pouvoir faire jeu et
exactement.
Dire jeu au personnage.
Et donc, c'est lui qui raconte son histoire, voilà. Comme s'il était dans une sorte de one-man show avant la lettre,
exact.
En quelque sorte, et qu'il s'adressait à ce public extraordinaire. Victorien Sardou, juste une petite parenthèse, c'est vrai que voilà un auteur, un dramaturge un peu oublié, le gendre de Dorsoulier, un grand bonhomme,
ouais.
qui a fait aimer l'histoire aux Français, et il faudrait peut-être le remettre davantage.
Ah,
c'est au metteur en scène et à l'homme de théâtre que
ça,
je parle.
Ça, c'est sûr, mais vous savez, il faisait des pièces avec 25
voilà,
personnages,
c'est ça, le problème.
5 décors.
Et des décors, etc.
Ah, oui,
ça coûte
ça,
une fortune à remonter.
Voilà, mais c'est formidable, c'est d'une écriture extraordinaire.
Il est un peu oublié de la Révolution, ce Labussière, Philippe Séguy. On ne peut pas dire qu'il soit une figure de proue.
Vous savez, les comédiens, pendant la Révolution française, ne sont guère aimés du pouvoir. Et c'est une chose assez fascinante de constater, dans la mesure où, même s'ils sont connus avant la Révolution française, on a des exemples fameux, je pense par exemple à Adrienne Lecouvreur, Talma, qui aura justement cette heure de gloire extraordinaire, exceptionnelle sous l'Empire, est extrêmement chahuté au moment de la Révolution française.
Absolument.
Être comédien face à des révolutionnaires, c'est être un suspect. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Ancien Régime a adoré le théâtre, que Marie-Antoinette subventionnait les théâtres, et Francis Perrin a bien raison dans son livre de parler par exemple de La Montancier, qui justement est l'amie de la reine, l'a protégée de la reine Marie-Antoinette. Les comédiens sont des suspects.
Et qui avait la charge de tous les spectacles.
Exactement, femme d'affaires,
elle est la fondatrice du célèbre théâtre du Palais Royal, hein, qui
absolument,
existe toujours d'ailleurs.
Et du théâtre Montancier à Versailles,
sûr,
que j'ai dirigé.
Que vous avez vous dirigé, bien entendu, dont vous,
voilà.
dont vous êtes le grand homme, si je puis dire. Avec Marcel Tassancourt,
oui,
etc., bien entendu.
Bien sûr.
Alors, ce personnage, il faut dire qu'il commence assez mal dans la vie. Vous l'appelez l'enfant terrible de la Révolution, on pourrait dire que c'est un enfant terrible tout court.
Absolument, parce que oui, voilà, il est ingérable, il ne prend pas la vie au sérieux, il ne pense qu'à faire des farces, il ne pense qu'à... Voilà, qu'à oui, car
on n'arrive pas à le, on n'arrive pas
à
le
faire
tenir.
Mal aux autres aussi, parce que je pense que les farces vont même très très loin, quoi. Donc c'est, oui, voilà, parce que son père le destine, bien sûr, à la carrière militaire, et lui, ça ne l'enchante pas du tout, et il veut, oui, c'est vraiment ça, c'est un ingérable.
Un ingérable. Il passe son temps, alors c'est châtiments corporels, punitions en tout genre. On essaie de le dresser comme on faisait à l'époque, et rien n'y fait.
Rien n'y fait, et au contraire, ça le pousse à aller plus loin, à faire des choses même graves, jusqu'à aller à un moment tout de même... enlever une novice dans un couvent tout de même. C'est...
Oui, parce que alors on va voir que par ailleurs c'est un chaud lapin notre personnage,
oui.
On y vient
oui.
dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Franck Ferrand et ses invités aujourd'hui sur Europe 1, le comédien Francis Perrin et le docteur en histoire Philippe Séguy.
Il a le diable au corps, votre Labussière.
Le diable au corps, absolument, on peut le dire, sur tous les plans, oui, c'est ça.
Alors vous nous montrez même, disons les choses, quelqu'un qui vend un peu ses charmes. Hein,
c'est un gigolo. Oui, ça j'en
parlons clairement.
Mais je pensais que vivre, la manière dont il pouvait vivre à Paris, c'était le seul moyen. Et je vais vous dire, c'est aussi une chose, ce qui lui permettait de rencontrer aussi des gens très importants pendant la Révolution, que je voulais absolument qu'ils croisent. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais imaginer tout de même que c'est...
C'est un imaginatif, c'est un farceur. On sait que vous aimez ça, vous, Francis
oui.
Perrin. Vous aimez ces personnalités un peu décalées, comme ça,
voilà.
qui font bouger un peu les lignes de...
Oui, qui sont un peu hors normes.
Voilà,
vous
c'est
voyez,
ça.
Voilà, ça. Oui, j'aime bien, parce que tout d'un coup, c'est... Ça permet de... Et bien en plus, ils vivent des situations extraordinaires au milieu d'une époque, si on, enfin, qu'on peut dire troublée au plus haut point. Et c'est ça qui m'intéressait.
Alors, pour en finir avec sa jeunesse, hein, il faut
oui.
dire en deux mots. Alors d'abord, pas moyen de le maintenir dans un pensionnat
non.
quelconque, c'est
non.
compliqué. Comme tout, il va même jusqu'à inventer qu'il a la rage.
Oui,
pour
arrêter. Oui, c'est ça. Il mange du savon,
pour avoir l'écume
voilà,
nécessaire
pour avoir l'écume,
et faire croire qu'il a la rage pour qu'on le renvoie.
Oui, oui.
Ah bon. Et alors, il est tout jeune.
Mais son
quand
père veut le tuer. Hein, ça,
oui, mais oui.
Il va jusque là.
Il n'y a pas d'amour paternel. Là,
oh, pas du tout.
Hein, c'est le moins
pas
qu'on puisse
du
dire.
Pas du tout.
Dans cette famille de la noblesse. il faut pas oublier quand même, celle qui va jouer un rôle important pour ce qui nous intéresse voilà, dans
un instant. Une noblesse pauvre, mais qui existe et qui est, voilà.
Alors, on le fait admettre comme cadet dans un régiment royal, ça, on connaît, ça a été le sort de tellement, tellement de jeunes gens, évidemment. Il ne fait donc pas du tout carrière dans les armes,
hein, non, 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 puis il se prend en grippe avec le major, bon, avec des gens. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnages qui sont importants et qu'il l'aime bien aussi. Parce qu'il a une sympathie, parce qu'il est, voilà, parce qu'on l'aime bien. Mais il y en a d'autres, quand il se heurte avec eux, là, ça peut aller loin.
Alors, ce qui est très beau dans le roman, et puis c'est lui qui parle, il raconte ça, c'est qu'on a l'impression, à travers le foisonnement de cette jeunesse qui a lieu pendant les toutes dernières années de l'Ancien Régime, de comprendre ce qu'a été cette douceur de vivre de la fin de l'Ancien Régime, dont parlait Chateaubriand, hein, n'est-ce pas?
C'est... On parle Talleyrand.
Ou Talleyrand aussi, oui.
Il y a cette fameuse formule de la douceur de vivre. C'est là la césure que
n'a pas connu la France d'avant la Révolution,
n'a pas connu la douceur de vivre. En fait, la France est un pays où il fait bon vivre. La France est aimée, est admirée par les autres pays. C'est une source de fascination. Il ne faut pas oublier quand même que la France est le pays le plus peuplé d'Europe et que les progrès de la médecine ont fait en sorte que les enfants, justement, ne meurent pas forcément toujours au berceau. On parlait d'éducation tout à l'heure. L'Émile de Rousseau a fait aussi beaucoup progrès en la matière. Il est heureux d'être français. On parle le français dans toute l'Europe des Lumières. On aime la littérature, on aime la musique française, on aime les arts.
Et on aime alors par-dessus tout, on dit en France tout finit par des chansons, c'est beau marché, mais on aime le théâtre. Et il va devenir comédien de théâtre, notre personnage. Un peu par hasard, hein, disons-le quand même.
Voilà, c'est ça, parce qu'il a un don comique et tout ça, il se dit
ça
marche bien, il s'est fait rire. Et il se fait engager au Théâtre Mareux, qui est un petit théâtre du Faubourg Saint-Antoine. Et donc là, il va commencer à faire ses...
Bon, il joue les valets de comédie,
c'est un comédien de second plan.
Mais
on va le voir, on rit parce qu'il fait des facéties encore, donc et puis lui, ça lui plaît, quoi. Je crois.
Il s'amuse avec les comédiennes.
Voilà.
Il rend des services à la troupe. Il a même été souffleur.
Est souffleur. Voilà. Francis Perrin raconte d'ailleurs une histoire très drôle, une anecdote très amusante, où un souffleur justement meurt brûlé vif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque les scènes sont éclairées.
En effet, c'était
opulent.
Voilà.
Il meurt très brûlé vif. Et il voulait, ça c'est très amusant aussi, vouloir être incinéré.
Oui, voilà. Alors. Ça, je sais qu'on n'avait pas le droit à cette époque-là de faire
un cinéma. Enfin,
c'est un clin d'œil. Mais c'est vrai que je dis que le souffleur, qui n'a jamais pu brûler les planches, pour une fois.
Il fera des étincelles.
Alors vous, évidemment, vous êtes le comédien français par excellence, Francis Perrin. Ouais. Mais nous avons un deuxième comédien à cette table, puisque Philippe Séguy, vous avez joué la comédie, vous,
pendant longtemps. Absolument, pendant 9 ans, j'ai eu ce plaisir.
Et on peut dire que le statut de comédien, à cette époque du début de la Révolution, on va dire, n'est pas très enviable.
C'est le moins qu'on puisse dire, et je reprenais l'exemple tout à l'heure, on parlait d'Adrienne Le Couvreur, merci. Et cette malheureuse Adrienne, la grande égérie, la grande amoureuse de Maurice de Saxe, à sa mort, finira sur un lit de chaux-vives. Elle est enterrée sans office religieux. Il ne faut pas être comédien. L'idée va perdurer longtemps. N'oublions pas la terrible formule de Madame de Ségur. Là, on n'est plus au 18e, on est au 19e. Lorsqu'elle parle de cette petite fille pas vraiment modèle, et elle a ce mot terrible, elle dit « elle se fit actrice et mourut à l'hôpital ». Donc il ne faut pas, lorsqu'on est né aristocrate, c'est le cas de la Bussière, ou quand on appartient à la bourgeoisie, embrasser la carrière des planches. Quelle
horreur. Surtout pas.
Alors, évidemment, ce personnage va peu à peu devenir une sorte de... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Une sorte d'aventurier, c'est ça le mot?
Oui, voilà.
Hein, c'est ça.
Voilà.
Et quand éclate la Révolution française, on peut dire que pour toutes ces personnes un peu déclassées, parce que c'est le mot, voilà quelqu'un qui est né noble, certes pauvre, mais qui quand même était noble,
absolument.
Et puis qui va néanmoins... alors, on essaie les armes, il n'est pas bon pour ça, il n'est pas un bon soldat, il va préférer les planches aux armes, c'est-à-dire il n'y a rien de plus terrible, il est plus ou moins gigolo, vous nous l'avez dit, Francis Perrin. Donc, au moment où éclate la Révolution, on peut dire que dans le grand brassage de la société de l'époque, avec toutes les possibilités qui s'ouvrent, ça pourrait être une chance pour lui, ça, quand même.
Je sais pas s'il se rend compte exactement de ce qui... je crois qu'il assiste à la prise de la Bastille, bien entendu, parce que le Faubourg Saint-Antoine est à côté, enfin, son théâtre est à côté. Donc il passe juste devant, et donc il y va. Donc j'imagine qu'il rencontre Latude aussi, qui est venu assister aussi à la prise de la Bastille. Mais c'est vrai, je crois pas qu'il se rende compte de ce qui se passe vraiment.
Je vais vous dire...
Parce qu'il ne prend rien au sérieux et je pense qu'il ne se rend pas compte de l'importance.
En vérité, il n'est pas le seul. Je pense qu'on peut dire qu'une grande partie des Français n'ont pas été conscients de ce qui se passait pendant la Révolution. C'est d'ailleurs ce que je vais vous raconter dans un instant, si vous le voulez bien.
Ah. Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Chantons la Carmagnole, Franck, sur Europe 1. Hein.
Vive le son du canon. Alors, la célèbre collection La Vie quotidienne chez Hachette compte pas mal de chefs-d'œuvre. Vous savez, de ces livres qui peuvent contribuer à nourrir une vocation d'historien. Et parmi eux, loin derrière la crête de Paul Fort, enfin ça nous entraînerait vraiment très loin, je place évidemment La Vie quotidienne au temps de la Révolution de Jean Robiquet. Lorsque j'ai découvert ce livre à l'adolescence, je me rappelle avoir été frappé par un aspect fondamental. Jean Robiquet y explique que si, avec le recul, nous avons nous le sentiment que tout un peuple entre 1789 et 1799 a vécu au rythme des événements politiques majeurs qui étaient en train de bouleverser la France, eh bien la vérité a été très différente. Et la vérité, c'est que pour 95% des gens au moins, le quotidien était assez peu affecté par cette révolution. Cette mise au point, cette précision de bon sens, qui pour un historien peut paraître évidente, je trouve qu'elle est fondamentale. Si j'ose dire, elle remet les choses à leur place. Je cite Jean Robiquet lorsqu'il prend l'exemple de Paris. En réalité, dit-il, une ville de 800 000 âmes ne renonce pas facilement à ses habitudes. La politique peut la secouer, une catastrophe peut se produire, mais dès le lendemain, les cafés rouvrent leurs portes, les femmes ressortent leurs toilettes et tout reprend son cours normal. 3 jours à peine après le 10 août, nous dit-il. Donc on est le 10 août 1792, au moment de la chute de la monarchie, quand le plus gros bouleversement de l'histoire de France, disons-le. Si nous en croyons une bourgeoise, la foule se presse élégante et joyeuse au jardin du roi, le commerce est brillant, tous les visages portent l'empreinte de la cordialité. Vous voyez, tout se passe quand même dans une espèce d'atmosphère commandement bon enfant. Et tandis qu'on enterre encore tous les Suisses, les patriotes, etc., qu'on a vu, vous savez, qui se sont fait tuer pendant le sac des Tuileries, une petite annonce du Moniteur nous apprend que Madame Broquin continue à vendre sa pommade couleur chair pour teindre les cheveux rouges ou blancs en châtain ou noir en une seule séance et le prix est de 9 francs le pot. Vous voyez que les gens continuent à vivre, évidemment. Encore une fois, ça peut paraître naïf de le souligner, de le dire, mais c'est ce qui fait la différence entre le cours d'histoire, si je puis dire, et puis l'histoire vécue. Et c'est cette histoire vécue, justement, que permettent d'appréhender les romans historiques en général, et le roman de Francis Perrin en particulier. Ne faisons pas grief aux Parisiens d'avoir fréquemment oublié la gravité du drame auquel ils assistaient, nous dit Jean Robiquet. La vie privée de chacun d'eux n'avait-elle pas tout simplement ses exigences? Quand la nommée Adélaïde Mareux écrit le 17 août à son frère que leur père Toussaint Mareux, commissaire de la section, a passé 5 nuits à l'hôtel de ville et ne décesse pas de se donner du mal, elle s'inquiète surtout de savoir si ce genre de place est payée. Et oui, là encore, c'est-à-dire que les gens récupèrent un certain nombre de places dans les comités de la Révolution, dans différents... Il y a une espèce de grand bouleversement, etc. Mais ce qui compte, c'est leur salaire, c'est leur loyer, c'est la façon de se nourrir aussi, bien entendu. Lorsque vous prenez le cas des massacres de septembre, par exemple, c'est quand même une des vilainies invraisemblables, une des pages les plus noires de notre histoire. Vous savez que les patriotes, comme on les appelait, c'est-à-dire en fait les ultra-révolutionnaires, qui vont dans les différentes prisons assassiner à tout craint, tout ce qu'ils vont trouver, simplement, pour faire couler du sang, en quelque sorte. Eh bien, ça a lieu les 2 et 3 septembre 1792, et le 8 septembre de la même année, la fête de Saint-Cloud continue d'attirer les grisettes, les mirlitons et les amateurs de parades et de contredanse, comme auparavant, bien entendu. La vie est plus forte, la vie prend le dessus, et tout continue, bien entendu. Alors il y a, nous dit Jean Robiquet, dans cette vie quotidienne des Français sous la Révolution, il nous dit qu'évidemment, il y a un événement qui tout de même a marqué
marqué profondément les consciences, c'est le procès et la mise à mort du roi. Ça quand même, évidemment, alors là on peut dire que, non seulement à Paris, mais d'une façon plus générale dans les provinces, à mesure que la nouvelle parvenait, parce qu'il faut tenir compte évidemment aussi de ces distances et du temps que ça suppose, là quand même ça a été assez durement ressenti. Chacun marchait lentement en osant à peine se regarder, nous dit un témoin de l'époque. Et dans les révolutions de Paris, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas, on peut pas dire que ce soit un organe qui soit particulièrement favorable à la monarchie. Néanmoins, on précise que les femmes furent en général assez tristes et que la ville a pris un aspect morne. Il n'empêche que on est là donc le 21 janvier 93, dès le printemps 93, on rouvre les guinguettes des Champs-Élysées et tout va bien. Sous la plume de l'observateur de police Dutard, vous savez, qui renseigne la police sur l'atmosphère générale en ville. Il dit qu'au mois de mai, des modérés, des aristocrates, des propriétaires de fort jolies petites femmes bien ajustées, se faisant caresser par le zéphyr printanier, font la joie des Champs-Élysées. Vous voyez ça ? Tout ça continue. Alors arrive néanmoins quand même, le coup d'œil était charmant, ajoute-t-il. Cette occurrence simultanée du retour de la saison et d'un nouvel ordre des choses dans notre politique a déridé jusqu'aux vieilles, paraît-il, où tout le monde rit dans cette histoire. Arrive quand même la terreur. Alors là, on se dit quand même, ça va être terrible. La grande chambre du palais transformée donc en tribunal révolutionnaire, d'où partent ces listes de condamnations qui envoient chaque jour quand même à la mort de 40 à 60 victimes. Je ne parle que de Paris. Vous imaginez ce qui se passe dans toutes les villes où sont envoyés les représentants de la Convention. Il faut savoir que dans les 49 derniers jours de ce qu'on appelle la terreur, plus de 1500 têtes vont tomber. Comme des ardoises, disait Fouquier Tinville, avec une image dont on peut lui laisser la responsabilité. On peut se dire quand même que pendant cette terreur, alors là, oui, les gens sont particulièrement affectés dans leur quotidien. Eh bien, au risque de vous décevoir, Jean Robiquet nous apprend qu'il n'en est rien et que si l'on prend les journaux, les mémoires, les souvenirs, les feuilles imprimées à l'époque, etc., si la terreur, évidemment, modifie la conception qu'on peut se faire de la vie civile et sociale, par ailleurs, elle n'a que très peu d'impact sur les foules. Alors, évidemment, au moment des assassinats, j'allais dire, au moment des exécutions, quand vous avez le général de Custine qui vient pleurer dans sa moustache grise et sa belle-fille qui se tord les mains, quand vous avez Madame du Barry qui hurle sur les marches de l'échafaud, ou Danton qui, vous savez, va faire entendre avec sa voix de tonnerre une sorte d'anathème contre les bourreaux de l'heure, là, ou quand on arrache le pansement de Robespierre le jour de son exécution en Thermidor, là oui, évidemment, ça fait un peu de bruit. Mais d'une façon plus générale, à côté de ces belles séances, nous dit Robiquet, combien de fournées monotones qu'on ne regarde que d'un œil distrait, on s'est habitué à l'horrible après tant de représentations. La guillotine ne fait même plus recette.
Un extrait dans le cœur de l'histoire sur Europe 1 de l'ouverture pour instruments à vent de Gossec.
Ce qu'il y a pendant la terreur, nous dit encore Robiquet, c'est que les personnes éprouvent généralement davantage de difficultés à faire bouillir leur marmite. Pénurie des denrées, vie chère, tel est le fléau qui s'abat sur la capitale comme sur le reste du pays. Alors, j'ai peut-être donné une vision légèrement poussée des choses, Philippe Séguy, je vous voyais hocher la tête, mais il faut bien dire que pour une immense majorité des citoyens, puisque maintenant ce sont des citoyens, la révolution ne change pas grand-chose à leur quotidien.
Il faut distinguer ce qui se passe en province de ce qui se passe dans les grandes villes. Parce qu'il est évident que la chape de plomb que fait peser la terreur sur les rues de Paris est bien réelle. Et vous avez parfaitement raison d'ajouter que la pénurie d'aliments est total. Le prix du pain a atteint des sommets vertigineux et les Parisiens meurent de faim. Donc il est évident que vivre à la fois dans la peur de la mort, dans la peur des dénonciations, je pense par exemple, et vous en parlez dans votre livre, Francis Perrin, de ce qui se passe au moment des lois de Pré-Réal, qui sont ces lois terribles où on envoie à l'échafaud quelqu'un sans jugement, associé au ventre creux, génère une atmosphère dans la ville qui n'est évidemment pas tellement favorable. Ça, c'est certain. Mais en même temps, je me souvenais d'une petite anecdote en vous écoutant, Franck, lorsque une dame, je crois, du sud de la France, ne veut pas que son fils parte conscrit, elle va t'envoyer une missive à nos seigneurs des États généraux. La seule chose, c'est qu'on nous sommes en 1807 quand elle écrit cette lettre. Donc, c'est vous dire en effet que le téléphone n'étant pas inventé, il n'y a pas de SMS à l'époque.
Elle avait 20 ans de retard.
Elle avait 20 ans de retard. Je n'ai jamais oublié cette anecdote parce qu'elle est quand même très révélatrice du manque d'informations réelles de l'époque.
Alors, c'est en 1794 que notre Labussière, donc on est au pire moment, hein, c'est le moment où les fournées de guillotinés se succèdent dans les rues, il entre au comité de salut public. Alors, il faut expliquer qui est Fabien Pillet et comment notre personnage est entré au comité.
Bien sûr. Il est entré au comité parce que, encore son esprit farceur, il va dans les jardins du Palais Royal, imiter les espions, jusqu'au moment où on lui dit, elle n'est pas passée loin de la guillotine, il faut qu'il trouve une place pour se faire un petit peu oublier. Et donc, il se fait engager au comité de salut public parce qu'il a une belle écriture. Et qu'il sait ranger les choses, enfin qu'il est très ordonné et tout. Et Fabien Pillet, donc, qui est le responsable du bureau dans lequel il entre, où passent, comme vous avez dit tout à l'heure, tous les dossiers des condamnés à mort, et où il y a les pièces d'accusation, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur de tous les dossiers. Donc il faut qu'il les range, il faut qu'il les classe.
Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il va exercer sa très coupable industrie dans une sorte d'impunité totale. Alors, il sort des liasses de dossiers, un certain nombre de dossiers. Alors, sur quels critères les choisit-il?
Alors, il tombe sur le premier, je crois qu'il tombe sur Florian.
Oui, c'est ça.
Florian, qu'il avait rencontré chez la princesse de Lamballe, donc qui était l'amie de sa mère et donc sa protectrice en quelque sorte, et qu'il a vu massacrer comme vous avez dit au mois de septembre 92, et il est tombe sur Florian et il se dit mais Florian est accusé juste parce qu'il a eu un commerce avec la noblesse. Et donc il va être envoyé à l'échafaud pour ça, mais c'est complètement injuste. Et là, à ce moment-là, il fait disparaître la pièce d'accusation, ce qui permettait à Florian de rester en prison et de ne pas avoir...
Ce qui est très malin de sa part, c'est qu'il fait disparaître les dossiers complètement. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de les ramener chez lui, il les détruit, il les transforme en boulettes de papier.
Oui, c'est ça, parce qu'il trempe dans un seau qui était destiné à rafraîchir le vin blanc. Et donc, il trempe les pièces d'accusation et il en fait des petites pâtes à papier comme ça, qu'il met dans sa poche. Et comme ça, il peut sortir impunément.
Il n'y a aucune trace.
Non.
Alors, il faut quand même imaginer l'état de désordre de l'administration révolutionnaire pour que personne n'aille plus loin quand même. On fait disparaître des dossiers entiers.
Mais c'est pour ça qu'on avait engagé, parce qu'il y avait un monceau de paperasse. Oui, les prisons sont pleines, archi pleines.
Absolument. Et la loi des suspects les a littéralement bourrés. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête. Voilà. Et au bout d'un certain temps, on ne peut plus juger. Juges ont droit quand même à un minimum de sommeil. Donc il faut attendre. Et plus on attend, et plus on a des chances de sauver sa tête.
Exactement, voilà. C'est exactement ça. Ouais.
Alors, en fait, il faut situer les choses. On est dans ce palais d'égalité qui est l'ancien palais des Tuileries. Alors, il y a les deux comités, le comité de salut public qui siège sur la gauche du côté du pavillon de Marsan, et le comité de sûreté générale qui lui siège à l'autre bout du côté de la Seine, du côté du pavillon de Flore. C'est là qu'il se trouve notre bonhomme.
Absolument. Et quand il sort de là, après, donc avec ses petits pains de papier, il va au bain Vigier, donc
aux étuves.
Voilà. Et donc il trempe encore là dans la baignoire. Et il en fait des petites boulettes, qu'il jette par la fenêtre, par-dessus la Seine. Enfin, dans la Seine.
De la nourriture pour les poissons.
De la nourriture pour les poissons. Voilà. Je disais à Francis Perrin d'ailleurs qu'une source prétend que la Bussière pêchait et qu'il utilisait justement ses petits pâtons de papier trempés dans la baignoire pour pêcher les carpes.
Ah bah écoute, tout est possible. Ça, je sais.
Ça, 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 ça,
c'est dommage.
C'est dommage parce que c'est une belle image romanesque, vous avouerez. Bon, cela dit, je vous rassure, il y en a beaucoup de belles images dans le livre. C'est quand même une période parce qu'au-delà de ce personnage de la Bussière et du rôle qu'il va jouer auprès des comédiens de la Comédie Française, parce qu'il va les sauver.
Oui, par c'est ça, mais c'est un anti-héros pour moi. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il fait ça par humanité, puis il trouve ça injuste, mais il fait pas ça pour qu'on le reconnaisse. Et après, d'ailleurs, il dit, moi, je veux pas qu'on me remercie, rien, j'ai fait ce que je devais faire, quoi. Ah bon, et en plus, il regrette, enfin, comme dans la liste de Schindler,
oui, c'est ça, oui.
Pourquoi j'ai pas pu en sauver plus, mais ça, il pouvait pas, parce que il fallait bien que Fouquier-Tinville et ça.
Mais alors, nous allons voir tout à l'heure que ce chiffre de je viens de recevoir un message, on va en parler dans un instant, ce chiffre de 1157 est très contesté, bien entendu, mais.
1153, oui.
1153, ouais. Pardon. Mais, de toute façon, c'est déjà énorme. Encore une fois, ce sont des gens qui disparaissent de l'appareil judiciaire. C'est complètement fou, ça. C'est-à-dire que.
Qui échappent à la loi de Praria, et donc qui ne sont pas condamnés.
Et qui ne sont pas condamnés. Et qui attendent. Vous savez que la vie dans les prisons s'organise.
Vous l'avez raconté, vous, Philippe.
Absolument. Je l'ai raconté dans mon précédent roman, pardonnez-moi.
Mais Stanislas ou Un caprice de Joséphine, on est dans ces prisons de la Révolution.
La scène dans mon livre se passe dans la prison des Carmes, que ce soit à Pélagie, que ce soit ailleurs, à la Petite Force, c'est la même chose. On organise une vie sociale. Les gens se rencontrent, les garçons draguent les filles, on essaie de faire une sorte de commerce. Parce qu'il faut manger, bien évidemment. On essaye de prendre des aliments comme on peut. Les filles se prostituent pour avoir du parfum ou de la poudre. On donne des concerts, par exemple, à la prison des Carmes. Oui, enfin, c'est une vie sociale en marge de la vie quotidienne des Parisiens. La même chose se passe à Lyon, par exemple, ou à Nantes, d'ailleurs.
Alors, il va rester extrêmement discret, notre La Bussière, évidemment, mais il bénéficiera de la complicité de Pillet, qui n'a aucun intérêt, évidemment, à le dénoncer, parce que ce serait gravissime pour lui aussi.
Bien sûr, aussi, oui. Parce qu'il se met en danger, enfin, lui-même, La Bussière, mais il met en danger Fabien Pillet, qui est très au courant de ce qu'il fait et qui laisse
faire.
C'est
le chef central du bureau des détenus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui est, alors lui, chargé de...
Et c'est lui qui a confirmé après que La Bussière avait bien fait ça, parce qu'il y a eu des détracteurs en disant il n'a jamais fait ça, il a tout même...
On ne se méfie pas de La Bussière parce que je pense qu'il a une apparence un peu... D'abord, il est tout jeune, il a 25 ans.
Oui, il a 25 ans et puis il a un côté bonnet. Je crois qu'il s'en sert aussi.
Il en rajoute
aussi, il est joli garçon.
Il est très joli garçon.
Il présente bien.
Oui, il est très... Voilà, et puis il a un côté bonnet. Je crois que c'est un grand malin aussi.
Oui, c'est ça.
Je crois qu'il sait très très bien...
Il faut du talent pour jouer les bonnets au théâtre.
Absolument.
Il le dit d'ailleurs.
Absolument.
Et il se fait passer pour un bon républicain, plein de zèle.
Il vaut mieux. Oui, il avait intérêt. Parce que
il lui arrive de croiser Robespierre, vous nous montrez des scènes extraordinaires. Robespierre qui s'approche de son bureau, qui lui dit que faites-vous. Il est en train de...
Oui, non, mais là je travaille.
Très bien, continuez, lui dit Robespierre.
Mais je pense que ça, oui.
Et la scène du coffre.
La scène du coffre, oui, parce qu'il sort avec le truc. Et puis d'un coup, il l'entend.
Formidable.
Ils vont tous remonter, Robespierre, Saint-Just. Il fait, mais là ils vont me trouver, là ils vont dire qu'est-ce que... Hop, il se met dans le coffre, il se gagne, et les autres...
On est chez Sganarelle, pour le coup, là, c'est
Molière,
le théâtre.
Absolument, on est chez Molière, là, oui.
Eh bien, ce personnage extraordinaire, vous allez voir qu'il nous réserve encore quelques surprises.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec une émission sur Europe 1 consacrée à l'ange de la guillotine, un ange qui fait réagir, Franck.
Oui, et qui fait réagir notamment notre ami Frédéric Lenormand, vous savez, qui se fait connaître dans le monde de l'écriture du roman policier, notamment du Justi, et qui nous dit que si l'on en croit des dossiers conservés, des dossiers de police conservés aux archives, La Bussière serait plutôt un gros garçon probablement homosexuel, pour autant qu'on puisse savoir, puisque des policiers venus perquisitionner chez lui la nuit l'ont trouvé au lit avec un ami. Bon, il partageait peut-être son lit en même temps, ce garçon. Alors, il nous dit que on ne peut pas affirmer qu'il descendait des Delpech de La Bussière, que cette trace, cette famille est assez introuvable, que une grande partie des personnes qu'il aurait sauvées de la guillotine étaient détenues plutôt dans des maisons de santé que dans des prisons centrales, ce qui expliquerait qu'elles aient pu échapper à l'échafaud. Il se serait en quelque sorte attribué leur survie, alors qu'en fait il aurait surtout œuvré en faveur des comédiens, nous dit, et notamment des comédiens français, nous dit Frédéric Lenormand. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça c'est sûr qu'il a œuvré pour...
Ah oui, ça, la personne ne le conteste,
c'est ce que
du coup.
Je dis à un moment, s'il avait été militaire, il aurait sauvé des militaires. Je pense que c'est... Mais bon, il a sauvé... Mais moi, je me suis basé sur les récits de Fabien Pillet et de Legendre après, et qui ont bien confirmé ce qu'il
donc,
avait
fait. Donc, qui était chef de bureau.
Et qui était chef de bureau, donc, et qui ont confirmé qu'il avait sauvé plus de 1153. Moi, c'est un chiffre que j'ai eu. Et Liénard, dans ses.
Alors, Liénard, c'est celui qui écrit les fameux mémoires. Voilà. Pas bien écrit, d'ailleurs.
Voilà, hein, très mal écrit, ça il faut le dire. Mais enfin, il, tout de même. Et Labussière, il devait tout de même être. Il ne faut pas oublier que. Sa mère l'envoie chez la princesse de Lamballe, dont elle est l'amie. Donc elle avait tout de même, je pense, que la famille de Labussière avait fait tout de même, je pense à lui exister. Moi,
on est sur un sujet qui est relativement nébuleux quant aux chiffres. D'ailleurs, vous ne donnez pas de détails de ce point de vue. Ce que l'on peut dire, en tout cas, et quelle que soit l'ampleur de l'action de Labussière, c'est qu'il a bel et bien fait disparaître des dossiers,
absolument,
qu'il a bel et bien sauvé des gens de la guillotine, et qu'il est en quelque sorte une sorte de ce point de vue de révélateur.
Tout à fait. Et pour revenir à ce que nous disions à l'instant, n'oublions pas qu'une femme comme Joséphine de Beauharnais ira applaudir Labussière.
Oui, bien sûr.
Et vous dites dans votre livre qu'il aurait certainement sauvé les vies à la future impératrice des Français, même si ce n'est pas réellement, précisément sa vie à elle, il aura forcément sauvé des gens dans l'entourage de Joséphine. Et j'ai fait 2-3 petites recherches, il a aussi sauvé des gens qui étaient à la prison des Carmes. Et Joséphine est dans la prison des Carmes.
Bien sûr,
donc elle lui rend en quelque sorte hommage,
oui, parce qu'elle
est déjà à ce moment-là très important dans la société française.
Oui, elle vient avec Bonaparte.
Voilà, elle vient avec Bonaparte.
Donc, à l'approbation que Talma et quelques comédiens français donnent pour sauver
Labussière. Parce que ça, il faut dire que ceux
qui étaient dans la misère,
ceux dont il a sauvé la vie en quelque sorte, vont se cotiser pour essayer de le sauver, et ils vont avoir cette idée de monter une pièce dont les recettes seront attribuées à Labussière.
Très très belle recette d'ailleurs.
Hein, ouais, 4 000 francs.
Je crois que c'est 120 et quelques mille francs. Oui, il y avait
une somme très importante.
Oui, une somme très, enfin, ou 12 000. Francs, enfin, je me souviens plus de la somme.
Oui, mais enfin, c'est une très grosse
somme, et qu'il a dilapidé après parce que c'était c'était un enfant terrible.
En fait, ce qui est très intéressant dans cette affaire, à mon avis, il y a deux aspects. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Francis Perrin. Mais le premier, c'est que les défauts de ce personnage, ce qui l'a fait mettre au banc des institutions scolaires, de l'armée, et même d'une certaine façon du monde du théâtre, c'est-à-dire ce caractère ingérable, c'est précisément ce qui va faire de lui un héros pendant la Révolution, même si c'est un héros de l'ombre, puisque c'est ce qui va lui permettre de contourner la loi et d'essayer d'entrer en quelque sorte dans le sauvetage. Donc ça, c'est assez étonnant. Puis la deuxième chose, c'est que cet homme qui n'avait a priori aucune raison particulière de s'engager va se mettre à agir parce qu'il doit, en quelque sorte, il doit réagir à ce qu'il a sous les yeux.
Oui, parce que je pense que la violence et la terreur le terrifie, je crois qu'on peut dire ça, et c'est une chose qu'il ne supporte pas. Je crois que c'est ça. Il trouve que s'il y a une grande injustice dans toute cette guillotine là, qui n'arrête pas de tomber.
Il se dit que ça n'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Oui,
donc il y a une prise de conscience.
C'est une position humaine. Hein, je trouve que c'est formidable. C'est juste ça.
Allez-y.
Oui, oui. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que Fouché dise à la fin aussi, un saltimbanque ne doit en aucun cas devenir un héros. Ça, c'est ce qui m'intéressait de dire.
Qui était un vie qui portait une cilice, d'ailleurs, quand il envoyait les gens à la mort. Et quand on parle justement de prise de conscience, vous parliez tout à l'heure de la mort de Madame du Barry, sa mort, quand elle dit encore une minute, Monsieur le Bourreau, encore une minute, Monsieur le Bourreau, va progressivement faire prendre conscience aux Français, aux Parisiens, que finalement la terreur est un gouvernement effroyable. Merci. Et va amener justement ce fameux 9 thermidor. Il y a une prise de conscience progressive qui se fait dans la conscience des gens.
Dans la conscience, en tout cas, des gens qui agissent.
Dans la conscience des gens qui agissent, absolument.
Il y avait une cruauté qui était absolument insoutenable. Hein, ça,
alors, les mêmes causes...
Et qu'on a laissé faire. Moi, c'est ce qui m'a... quand j'ai relu toute la documentation tout ça, j'ai été vraiment, vraiment choqué par ça.
Les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets. Après la Révolution et après ce bel acte de courage, même s'il est, nous l'avons vu, contesté par certains, et il faudra que Frédéric Lenormand nous en dise davantage sur tous les détails.
C'est bien,
il y a un peu de polémique dans l'histoire, vous savez. Mais, et dans cette émission en particulier. Mais évidemment, après la Révolution, ben, j'allais dire tout rentre dans l'ordre, ou pour ce qui le concerne lui, tout rentre dans le désordre. Vous nous avez dit qu'il va tomber dans la misère. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la fin de sa vie.
Non, non, parce qu'on ne sait pas grand-chose après. Donc on sait qu'il a une crise de paralysie, il tombe dans la rue à ce moment-là, quand il y avait ça, donc ils étaient emmenés à Charenton. Et il est à l'asile de Charenton.
En même temps que Sade.
En même temps que Sade. Alors donc c'est ce qui m'a intéressé pour justement
cette mise en scène du roman.
Et puis dire que Fouché arrive justement pour écouter ce que va dire Labussière et qu'il n'est pas question qu'on sache ce qu'il a fait, quoi, voilà.
Ouais, Fouché est
parce qu'il vient d'être renommé ministre de la police.
Oui, après une petite éclipse.
Voilà.
Alors, ce personnage va mourir très jeune, parce que...
Oui, à 40 ans.
C'est ça.
En 1808.
Il est né en 1768, voilà. Il meurt en 1808.
Absolument.
Il a dilapidé les fameux 14 000 francs.
Oui, très vite. Alors, moi, je le fais tomber dans l'alcool. Parce que c'est une vie un petit peu miséreuse, parce qu'il n'y a plus rien. Quoi. Il est même plus farceur, il n'est plus rien. Il a plus rien. Et puis, bon,
c'est quand même curieux que ces grands personnages qui se sont penchés sur son cas, qui ont essayé de le sauver, qui ont monté cette pièce de théâtre. Mais... Vous nous dites que même l'épouse du premier consul est venue assister Joséphine est là. Et puis finalement, ils vont quand même le laisser tomber après.
Bah oui, parce que je crois qu'il n'y a rien à faire avec ce genre de personnage.
Et puis les gloires ne sont pas les mêmes. Enfin, je veux dire, les gens ont peu de mémoire à l'époque.
Exactement.
Un comédien, une comédienne, même très connue, même très célèbre, va disparaître dans l'anonymat le plus complet. Il y a plein d'exemples d'ailleurs de comédiens connus et absolument, qui malheureusement meurent quasiment dans la misère.
Absolument.
Ça me fait penser, Philippe Séguy, vous allez me dire si je me trompe, mais ça me fait penser au personnage dont vous aviez fait vous-même un roman qui s'appelait « Et embrasser la liberté sur la bouche », c'était il y a 2-3 ans, ça maintenant. Et c'était Rouyn de Méricourt.
Évident que lorsque j'ai lu le livre de Francis Perrin, cette vie misérable, cette vie d'une tristesse épouvantable, on va retrouver ce pauvre Labussière mort sur son grabat, voilà. Materouin de Méricourt, si j'ose dire.
Elle finissait folle aussi, comme
17 ans à la Salpêtrière, mourait dans sa folie. Ce sont des personnages qui sont frères de malheur, en quelque sorte.
Ouais. Et frères dans la liberté aussi,
frères
faut pas oublier.
Dans le goût de la liberté, dans les combats.
Moi, ce que j'aimais, c'est ce qui est important, c'est que bon, enfin, qu'il ait sauvé 4, 5 ou 6 personnes, ou 11, 100, 53.
C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, c'est le même principe, en tout cas.
Mais vraiment, il l'a fait, et c'est une chose très importante. Et puis, moi, j'aime la phrase de Guitry, que je mets en exergue, on se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien.
Et oui, ça. Mais grâce à vous, on se souviendra, en tout cas, de ce Labussière, dont je vous avoue que j'avais vu passer le nom une ou deux fois, comme ça, dans les chroniques, mais sur lequel je ne m'étais jamais arrêté. Et donc je vous dois ce grand mérite, Francis Perrin, d'avoir ressorti de l'ombre ce personnage qui, en plus, vous ressemble un peu, si je puis dire. Alors vous êtes beaucoup plus policé et présentable que lui. Voilà. Vous ne finissez pas tout à fait de la même façon.
Non, mais j'espère.
On vous le souhaite. Hein.
On espère que ça se passera mieux. Hein. Mais en tout cas, vous avez la même, j'ai envie de dire, le même décalage quelque part.
Voilà, hein, c'est ça qui m'a plu dans ce personnage.
Quand vous le faites parler en disant je, on a vraiment un peu l'impression parfois que c'est vous quand même qui parlez aussi.
C'est bien ce que j'ai voulu.
L'enfant terrible de la Révolution de Francis Perrin. C'est donc un roman qui est paru chez Plon. Et puis, puisque nous les avons cités, je rappelle les titres des ouvrages de Philippe Séguy. Stanislas ou un caprice de Joséphine, ça c'est le dernier qui est paru chez Flammarion. Et puis chez le même éditeur l'année d'avant. Et Embrasser la liberté sur la bouche, ça c'était à propos de Terroigne de Méricourt. Merci beaucoup à tous les deux.